Europe 1, il est 7h.
Nous sommes prêts aujourd'hui à gouverner intelligemment, écologiquement, socialement, la ville de Bordeaux.
Une vague verte qui déferle donc sur Bordeaux, Lyon, Marseille ou Besançon et une abstention jamais vue sous la 5e République. Les deux enseignements ce matin du second tour des municipales. Débâcle pour La République En Marche, les Républicains et le PS sauvent les meubles. À Lille, Martine Aubry conserve son siège pour 227 voix seulement.
C'était pas simple, on le savait, l'abstention a failli nous jouer des tours, mais on entend tous ces messages et on va essayer d'y remédier.
Emmanuel Macron lui aussi dit avoir entendu le message. Il reçoit ce matin les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Dans ce journal également, la fermeture, coïncidence du calendrier de la centrale nucléaire de Fessenheim. Et puis à 5 petits jours des grandes vacances, à quoi vont ressembler les colos de vacances apprenantes souhaitées par le gouvernement ?
Ils ont besoin de temps de loisirs, de temps en groupe. Ça leur a manqué pendant le confinement. Il faut les laisser un peu souffler. C'est les vacances. Il ne faut pas tout mélanger. On n'est pas là pour remplacer l'école.
Juste après ce journal, le grand retour des moustiques. Comment se protéger ? Votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h15, l'innovation et Anissa Mbida qui nous présente des moteurs diesel moins polluants, beaucoup moins polluants. C'est d'actualité. 7h25, l'édito sport de Virginie Fulpin et l'énième rêve de rachat de l'OM avec Mourad Boudjelal cette fois. Et voilà que la machine à fantasmes repart sur la canebière. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Théo Manval.
C'est donc du jamais vu dans l'histoire de la 5e République. À peine 4 électeurs sur 10 se sont rendus aux urnes hier soir pour le second tour des municipales. Et ce sont les écologistes qui triomphent donc dans de nombreuses grandes villes. Tour d'horizon pour commencer avec vous, Claudia Bertram.
Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Poitiers ou encore Tours. Une soirée historique pour l'écologie selon Julien Bayou, le patron des Verts. Assurément, un tournant politique dans le pays. Les écolos sont en passe de s'emparer des deux plus grandes villes de France après Paris. À Marseille, la coalition de gauche portée par les écologistes arrive en tête. Un score qui reste à confirmer lors du premier conseil municipal. À Lyon, doublé historique, les Verts remportent la mairie et la métropole. Malgré l'alliance de La République En Marche et des Républicains. Ces fronts anti-écolos n'ont pas empêché les Verts de gagner à Strasbourg ou même à Bordeaux après 73 ans de domination de la droite. Ils ont néanmoins échoué sur le fil à Toulouse et Lille. Qu'ils aient triomphé seuls ou en rassemblant une partie de la gauche derrière eux, les Verts s'imposent désormais comme une force incontournable en vue des prochaines élections.
Et parmi les symboles qui ont basculé hier soir, Lyon, où la ville comme la métropole ont été remportées par deux candidats verts inconnus du grand public, ils ont battu l'alliance de la droite et de La République En Marche pour s'emparer de la deuxième agglomération de France.
Révolution verte aussi à Bordeaux, Claudia le disait, où Pierre Urmic, un avocat, ancien conseiller municipal Europe Écologie Les Verts, bat le successeur désigné d'Alain Juppé. Il met fin à 70 ans de règne de la droite.
Nous sommes prêts aujourd'hui à gouverner intelligemment, écologiquement, socialement, la ville de Bordeaux. Je ne suis pas un homme de parti, je ne suis pas un homme d'appareil. Ce soir, vous ne verrez pas le moindre propos arrogant ou revanchard dans ma bouche. Ce programme, c'est de doter Bordeaux enfin de la transition écologique qu'elle mérite. De ne pas louper ce rendez-vous, mais en le faisant aussi dans un souci de justice sociale. Vous savez notre slogan de campagne, le monde change, changeons Bordeaux. Bordeaux a changé électoralement en nous mettant au pouvoir et Bordeaux changera politiquement demain grâce aux politiques bienveillantes que nous mènerons.
Pierre Urmic, nouveau maire écologiste de Bordeaux au micro européen de Stéphane Place.
Bonjour Anne Vigneault.
Oui, bonjour.
Vous êtes, vous, la nouvelle maire Europe Écologie Les Verts de Besançon, élue hier soir avec près de 44% des voix dans une triangulaire. Merci d'être l'invité d'Europe 1 ce matin. Très simplement, c'est général comme ça, mais cette vague verte, pour vous, elle veut dire quoi au niveau local comme au niveau national d'ailleurs ?
Eh bien, au niveau local, ça veut dire que désormais, les politiques écologistes vont se mettre au cœur de toutes les politiques, parce qu'à Besançon, nous avions la chance d'avoir des standards écologiques sur l'énergie, sur les déchets, sur l'eau, sur la question aussi de la biodiversité. Mais ça sera désormais toutes les politiques qui auront cette chance-là.
Le président de la République, Anne Vigneault, promet une réponse à la hauteur des enjeux et des attentes en matière d'écologie. Il reçoit d'ailleurs ce matin à l'Élysée les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce qu'il doit en faire, selon vous, de ce résultat qui est frappant ?
Eh bien, j'espère qu'ils vont entendre, parce que vu l'abstentionnisme que nous vivons à Besançon, mais aussi au niveau national, il est bien évident qu'il est urgentissime de faire participer de façon très active les citoyens. Ils le veulent, ils ont un problème de confiance et nous avons un problème de confiance, nous les politiques, si nous n'écoutons pas le désir, l'envie, le besoin de la population de participer à la vie politique, sinon ils s'en détachent et ça c'est vraiment gravissime.
Merci Anne Vigneault, nouvelle maire Europe Écologie Les Verts de Besançon. Merci d'avoir été en direct ce matin l'invité du journal de 7h d'Europe 1.
Il est 7h06.
Merci.
Pour les autres partis politiques, le PS limite la casse. Anne Hidalgo réélue confortablement à Paris, Rennes, Nantes ou Le Mans reste socialiste. Ça a été beaucoup plus dur en revanche pour Martine Aubry à Lille, victoire au bout de la nuit avec seulement 227 voix d'avance. Lionel Gougelot.
Après 1h30 de suspense, les troupes socialistes lilloises exultent, mais avec 227 petites voix d'avance seulement sur son concurrent écologiste, Martine Aubry a senti le vent du boulet du dégagisme.
C'était pas simple, on le savait, l'abstention a failli nous jouer des tours, mais on entend tous ces messages et on va essayer d'y remédier.
Alors aux 39% de Lillois qui ont voté pour les Verts, Martine Aubry répond... Je vous ai compris.
Il faut arrêter de faire des petits pas à la transition écologique au galop. Et j'espère qu'on sera aidé au niveau national, comme je l'ai déjà demandé, pour qu'on ait de plus en plus d'investissements nécessaires en matière de transition écologique qui créeront des emplois en même temps et qui réduiront les inégalités.
Même longueur d'onde chez les militants socialistes qui, durant la campagne, ont bien perçu dans la ville cette aspiration écologiste portée par les candidats verts.
L'écologie, c'est très important et c'est une ville qui en a besoin et on les a toujours eus comme alliés.
Bien entendu qu'ils sont là, il n'y a pas de problème. Il compte. Essayons de nous entendre un petit peu autrement et de travailler réellement ensemble.
Mais désormais première force d'opposition à Lille, les Verts risquent cependant d'être encore plus offensifs sur les grands projets d'aménagement qui, dans le mandat précédent, avaient provoqué la cassure avec Martine Aubry. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et à Marseille, le suspense perdure. Là aussi, c'est la gauche et l'écologiste Michel Rubirola qui arrive en tête, mais elle n'a qu'une majorité relative. À Marseille, on vote par secteur et tout va se jouer en fonction des alliances au conseil municipal en fin de semaine.
Et du coup, Martine Vassal, l'héritière, les Républicains de Jean-Claude Gaudin ne perd pas espoir, elle refuse de parler de défaite. Stéphane Frangy.
Elle n'en démord pas, que ce soit lors de son discours.
Ce soir, je n'ai pas perdu. Ce soir, il n'y a pas de maire à Marseille.
Ou encore auprès de quelques militants aux mines défaites.
On n'a pas perdu. Voilà, on a fait une belle campagne, vous inquiétez pas, ok ? On lâche rien.
Martine Vassal et ses colistiers comme Lionel Royer-Perrault croient toujours en leur chance.
Mais il n'y a pas de défaite, monsieur. Il y aurait eu une défaite si la gauche avait eu une majorité absolue, ce qui n'est absolument pas le cas à l'instant où nous parlons. Mon petit doigt me dit qu'il devrait y avoir des échanges tout azimuts, pas nécessairement d'ailleurs qu'à droite, et c'est un peu la logique des choses.
Tous renvoient à l'image de David Galtier aux alliances qui peuvent encore être nouées d'ici le premier conseil municipal.
Ah ben là, bien malin qui pourrait le dire. Donc les jeux sont ouverts. Donc voilà, nous devrions en effet compter pour ce que les observateurs appellent le fameux troisième tour.
Et ce troisième tour qui se jouera ce vendredi. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
À droite, les Républicains conservent Toulouse, Nice ou encore Saint-Étienne.
Ce second tour, en revanche, est une débâcle pour La République En Marche. Pas une seule grande ville conquise par le parti présidentiel. Seule consolation, la large victoire d'Édouard Philippe au Havre et celle de François Bayrou à Pau. Édouard Philippe, Michaël Darmon, qui sera reçu en tête à tête tout à l'heure à 10h par le président de la République avant la réception de la Convention citoyenne pour le climat. La semaine qui s'ouvre, Michaël, est vraiment cruciale pour l'avenir du couple de l'exécutif.
Et oui, parce que maintenant, Emmanuel Macron est au pied du mur. Où il le garde, où il le sort. Et quelle que soit l'option, eh bien ce sera un problème pour le président. S'il se sépare de son chef de gouvernement, eh bien il en fait un martyr politique. S'il le garde, il laisse à Matignon quelqu'un qui prend la lumière plus que lui, qui est beaucoup plus populaire que le chef de l'État et que les Français désignent comme celui qui peut conduire le changement, ce qui agace bien évidemment le président de la République. Après le désastre électoral d'hier, Emmanuel Macron, qui n'a cessé de rappeler qu'il allait se réinventer, va devoir faire preuve de beaucoup d'imagination. Il y a quelques jours, le président rappelait devant des gens qu'il restait libre de ses choix. En 2017, disait-il, je suis allé chercher un Premier ministre qui n'a pas fait ma campagne. De son côté, Édouard Philippe rappelle lui que le président sait ce qu'il peut faire et sait ce qu'il ne peut pas faire. Comme si c'était désormais Édouard Philippe qui avait désormais les cartes en main.
Merci Michaël Darmon, votre fait politique tous les jours dans le journal de 7h d'Europe 1.
Et puis concernant cette abstention record, Emmanuel Macron s'est dit préoccupé, moment dangereux, estime de son côté Jean-Luc Mélenchon qui y voit, je cite, une forme de grève civique des Français.
Europe 1.
Et dans un instant, la suite du journal avec, et c'est un symbole, un hasard de calendrier au lendemain de cette vague verte, la fermeture ce soir de la centrale nucléaire de Fessenheim. A tout de suite.
Europe 1.
Il est 7h11, la suite du journal. Théo Menval, Mathieu Béliard.
La suite du journal, et cela faisait 43 ans qu'elle était en service. Ça y est, la centrale nucléaire de Fessenheim va cesser de fonctionner définitivement cette nuit.
Hasard du calendrier, cela intervient donc après cette poussée historique des Verts au municipal. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Théo.
Sauf qu'économiquement comme écologiquement, c'est votre éclairage éco ce matin, bah, tout n'est pas si simple que ça.
Oui, vous savez, c'est un moment paradoxal. Elle avait été décidée par De Gaulle et Pompidou, mise en service sous Giscard en 1977. Cette centrale est toujours en parfait état de marche. Elle a pu continuer à fonctionner des années. Et c'est grâce à des réalisations industrielles de ce type que la France est un des meilleurs élèves au monde en matière d'émissions de CO2. Au moment où la mobilité électrique est en train de décoller, où les besoins de production d'énergie décarbonée explosent, eh bien l'arrêt de Fessenheim apparaît vraiment pour ce qu'il est, une décision politique prise par François Hollande pour plaire aux écologistes et qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de remettre en cause.
Est-ce que la fermeture de Fessenheim pose un problème, Nicolas, pour la fourniture d'électricité ?
Alors, l'organisme qui gère le réseau RTE a eu le temps de se préparer, mais n'exclut pas des coupures cet hiver. Fessenheim, il faut le dire aussi, était raccordé au réseau allemand et suisse et exportait beaucoup d'électricité. En Allemagne, cette électricité nucléaire est aujourd'hui remplacée par de l'électricité produite par du charbon. J'ajoute qu'après Fessenheim, la France prévoit d'arrêter 14 réacteurs dans les années qui viennent. L'éolien et le solaire vont monter en puissance, c'est une bonne chose, mais on sait que ça ne suffit pas. L'exemple à suivre, vous savez, c'est le Royaume-Uni. Plus 1 kW produit avec du charbon. Les énergies renouvelables, notamment l'éolien, l'ont intégralement remplacé. Mais en parallèle, le Royaume-Uni investit massivement dans le nucléaire. Pourquoi ? Pour gérer l'intermittence, ces moments où le renouvelable ne produit pas quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Si on veut plus de renouvelables, et c'est souhaitable, il faut du nucléaire. Il ne fallait pas fermer Fessenheim.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Oh, voilà, judiciaire. En bref, on saura cet après-midi si le tribunal de correctionnel de Paris rend ou non son jugement dans le procès Fillon pour soupçon d'emploi fictif. Le parquet avait requis cet hiver 2 ans de prison ferme contre l'ancien Premier ministre, 3 ans avec sursis contre son épouse Pénélope. Mais leurs avocats demandent la réouverture des débats après les pressions dénoncées par l'ancienne procureure Éliane Houlette. Pression pour accélérer la procédure.
À l'étranger, mesure de reconfinement dans le sud des États-Unis.
Le gouverneur de Californie ordonne notamment la fermeture à nouveau des bars de Los Angeles. L'Amérique toujours en proie à un rebond des cas de coronavirus. Épidémie potentiellement hors de contrôle selon certains virologues. En Pologne, le président conservateur Andrzej Duda comptera un second tour face au candidat europhile et maire de Varsovie Rafał Trzaskowski. Un second tour des plus incertains puisque les sondages donnent les deux hommes que tout oppose désormais au coude à coude.
On en reparle dans le journal de 8h, l'éclairage international de Vincent Hervouet. Enfin, après une année scolaire qui aura ressemblé à un gruyère et à un confinement parfois compliqué pour beaucoup d'enfants, les grandes vacances arrivent. Mais des vacances, vous le savez, des vacances apprenantes.
Ah oui, c'est la formule consacrée par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Et à 5 jours du grand départ, c'est le rush, justement, dans les centres de loisirs, dernier préparatif. Mais que vont faire, justement, les enfants dans ces colos d'un nouveau genre ? Victor Delande est allé voir sur place, dans le Val-de-Marne.
Bienvenue au centre de Mandres-les-Roses.
La directrice Angélique Sicher s'active. Elle vérifie les distanciations dans chaque pièce. Les enfants seront répartis par groupes de 10 et ne se mélangeront pas avec les autres groupes. À l'étage, masque obligatoire pour les plus de 11 ans et moins de lits occupés dans les chambres.
On enlève quand même beaucoup de lits, quoi. Il y a des chambres où, oui, effectivement, il y a 5, 6 lits, on va diminuer de moitié, quoi. Les enfants auront plus d'espace, c'est chouette pour eux, mais du coup, on perd des lits et c'est aussi beaucoup de ménage.
Colonie apprenante, donc, cette année, avec un accent placé sur l'écologie.
Ici, on se trouve dans le potager pédagogique du centre.
Des tomates et des salades, support idéal pour faire un peu de maths.
On va pouvoir faire mesurer, par exemple, tu vas mettre 2 pieds de courgettes, entre chaque pied de courgette, tu vas mettre 30 cm. On apprend en s'amusant.
Des jeux pour mieux retrouver des repères et des règles, mais attention, prévient Angélique Sicher, colo apprenante ne veut pas dire cours de soutien dans un centre.
Ils ont besoin de temps de loisirs, de temps en groupe, ça leur a manqué pendant le confinement. Il faut les laisser un peu souffler, c'est les vacances. Il ne faut pas tout mélanger, on n'est pas là pour remplacer l'école.
Et malgré une affluence qui s'annonce déjà en très forte baisse cet été dans les centres, les animateurs promettent aux enfants de jolies colonies de vacances.
Un classique évidemment.
Est-ce qu'ils voudront que ça recommence avec des cahiers de vacances ?
Je veux juste corriger 30 cm entre 2 pieds de courgette. Non, pardonnez-moi. Non. Pas assez. Non, 80 cm, 1 mètre facile.
Minimum.
On va apprendre sur les vacances apprenantes. Hein. On va réviser. Théo Menval, merci beaucoup.
Merci.
C'était le journal de 7h. À 7h30, tout à l'heure, nous serons avec Jérôme Lacroix sur Europe 1. Il est 7h16.
Et c'est votre rendez-vous santé avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Avec la chaleur, nos amis les moustiques sont de retour, ça y est. Est-ce qu'on sait pourquoi certains d'entre nous vont se faire dévorer et d'autres non ?
Oui, alors déjà, à plus de 10 mètres, le moustique vous repère grâce au dioxyde de carbone que vous allez expirer. Et d'ailleurs, les femmes enceintes en expriment un petit peu plus, raison pour laquelle elles se font plus piquer. Et puis, lorsqu'il se rapproche à 5-10 mètres, il se sert de ses yeux pour vous identifier. Et puis, lorsqu'il est tout proche, il s'intéresse à votre signature thermique pour identifier la zone la plus chaude et donc forcément la plus riche. Et il va pouvoir enfin passer à table. Alors, certains moustiques, même la plupart, sont attirés par la sueur et surtout l'odeur qu'elle dégage, notamment riche en acide lactique. On sait que certains groupes sanguins, le groupe A et le groupe O, sont plus à risque d'être piqués que le groupe B par exemple. Et puis, il y a aussi notre patrimoine génétique qui fait que certains vont se faire dévorer et d'autres un petit peu moins.
Mais alors, quel est le meilleur moyen, Jimmy, de s'en protéger alors ?
Alors, le moyen le plus efficace, c'est la moustiquaire et celle qui est imprégnée en insecticides. Il existe des kits déjà tout prêts qui vous permettent d'être protégé pendant 2 à 3 mois. Il est possible d'utiliser des répulsifs cutanés. Attention, certaines précautions sont à prendre chez la femme enceinte et chez les enfants. La climatisation, elle réduit l'agressivité des moustiques et donc vous faites piquer un petit peu moins. Vous pouvez utiliser des raquettes électriques. Enfin, attention, les huiles essentielles marchent très peu, moins d'une vingtaine de minutes. L'homéopathie, c'est pas plus efficace qu'un bisou magique. Les ultrasons aussi. Et puis, si jamais à 3h du matin, vous entendez ce petit bzzz, eh bien, vous vous levez, vous prenez une claquette et vous partez à la chasse. Ça marche tout aussi bien.
J'ai une petite image comme ça, mentale, des vacances de Jimmy Mohamed là, en train de courser le moustique. Merci Jimmy, la chasse au moustique est ouverte. Et puis, pas de point d'eau hein, dans votre jardin, pas un petit seau, pas même un frisbee à l'envers. Hein, sinon, c'est l'invasion des moustiques. Le médecin d'Europe 1 vous répond tous les matins. On vous retrouve après le journal de 7h évidemment. Et puis, à partir de 15h, sans rendez-vous, l'émission de santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez.
Il est 7h18 et on retrouve Anissé Mbida, l'innovation du jour sur Europe 1.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Innovation d'actualité, vous allez l'entendre. Pour réduire la pollution, on a beaucoup parlé des limitations de vitesse sur les routes. Et on va en reparler d'ailleurs, Emmanuel Macron reçoit ce matin les membres de la Convention citoyenne pour le climat.
Oui, et moi je vous ai trouvé un petit appareil qui va justement réduire les émissions des moteurs les plus polluants. Et là on parle des très gros moteurs diesel, hein, ceux qu'on trouve sur les camions, les autocars, les bateaux, et qui polluent énormément. Et c'est un petit appareil qui va non seulement diminuer la consommation, mais surtout réduire les polluants de 25%. Et attendez, écoutez bien, les émissions de particules, elles vont carrément chuter de 70%. Et tout ça sans changer de moteur, en lui ajoutant simplement un module qui va optimiser son rendement. Et en fait, il va injecter de l'hydrogène dans la chambre de combustion, ce qui va permettre au carburant de mieux se consumer et donc de rejeter beaucoup moins de particules.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, Anissé ? Qu'il va falloir ajouter une bonbonne d'hydrogène au véhicule ?
Non, juste un petit réservoir d'eau hein, de 2 litres et le module va la convertir en hydrogène au fur et à mesure avant de l'injecter dans le moteur. Mais vous avez raison, hein, ça va qu'on utiliser quand même pas mal de place. En fait, ça pourrait fonctionner dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, sauf que ça prendrait une bonne partie du coffre, alors que sur un gros camion ou sur un bateau, ce serait beaucoup plus facile à caser, surtout si ça fait faire des économies ou si ça réduit la pollution. Parce qu'on le rappelle, la loi est devenue beaucoup plus contraignante sur les émissions polluantes des camions et des bateaux.
Est-ce que c'est encore dans les labos ou c'est déjà commercialisé ?
Alors ça a été testé sur des camions depuis un an. Les gains ont été validés, ils viennent tout juste d'être validés par l'Université d'Australie du Sud. Du coup, la commercialisation commence maintenant. C'est une technologie développée par la start-up HYDY. Je vais faire ça en anglais.
Vous faites pas semblant de pas parler anglais. HYDY, Anissé Mbida International.
HYDY en français.
Eh bien écoutez, non, mais si ça réduit à la fois les particules fines et la consommation plus globale de carburant, voilà une très belle nouvelle, une très belle innovation. Anissé Mbida, merci beaucoup. Il est 7h20.
Europe 1. Et si l'ancien patron du rugby à Toulon, Mourad Boudjelal, devenait le président de l'Olympique de Marseille ? L'édito sport avec Virginie Fulpin.
Le monde bouge, Axel de Tarlet, juste avant, à tout de suite.
À 7h21 sur Europe 1, Mathieu Béliard.
Et Axel de Tarlet qui nous a rejoint en studio. Le monde bouge, Axel, et vous le racontez. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Facebook est confronté à une campagne de boycott massif des grands annonceurs. Coca-Cola, Pepsi, Unilever et beaucoup d'autres ont suspendu leur publicité sur leur réseau social. Ils dénoncent les messages de haine qui y sont postés.
Bah oui, jusqu'à présent, Facebook a toujours rechigné à faire la police, refusé de jouer les censeurs du web, dire quel message pouvait être posté et quel autre ne pouvait pas. Sauf que cette attitude à la Ponce Pilate, je m'en lave les mains, n'est plus possible. Face aux nombreux messages racistes ou prônant la haine qui sont véhiculés sur Facebook, nombre d'annonceurs ont décidé de carrément stopper leur campagne de publicité aux États-Unis sur Facebook. On parle là de gens qui dépensent beaucoup en publicité, comme Coca-Cola, deuxième annonceur mondial, mais aussi Unilever, c'est Lupton, Dove, Ben & Jerry's, Honda, Pepsi Cola, North Face, vous voyez, des marques qui ne veulent plus être associées à tous ces messages de haine sur Internet. On touche là, évidemment, le nerf de la guerre. car Facebook vit de cet argent de la publicité. D'ailleurs, l'action a chuté de plus de 8% vendredi.
Et que va faire Facebook ? Mieux contrôler ? Supprimer tous les messages jugés racistes ou diffamatoires ?
Ben voilà, Facebook va devoir renforcer le contrôle éditorial, mettre en garde les internautes contre des affirmations fausses, des affirmations erronées. Facebook va devoir faire son boulot et ne plus se cacher derrière ce statut bien pratique d'hébergeur. Vous savez, hébergeur, c'est fantastique, on est responsable de rien. En revanche, on peut empocher 70 milliards de dollars de recettes publicitaires. Et au passage, eh ben c'est une sacrée bonne nouvelle pour les médias traditionnels. Car ce contrôle éditorial, c'est justement ce qui fait la force, la caractéristique des grands journaux traditionnels. La responsabilité, le contrôle de tout ce qui est écrit. Eh bien écoutez, tant mieux si des annonceurs comme Coca-Cola réalisent ô combien c'est précieux. Et du coup, pourquoi pas ? Eh bien on se prend à rêver du grand retour de la publicité dans les journaux, dans la presse, dans les médias traditionnels. Publicité qui, on le sait, a été siphonnée par ces géants du web.
Merci beaucoup Axel de Tarlet, Le Monde bouge, et vous le racontez tous les matins sur Europe 1. Il est 7h23.
L'édito sport à présent sur Europe 1. Virginie Philpin.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
C'est l'édito sport donc, et Mourad Boudjelal pourrait-il être le prochain président de l'Olympique de Marseille? L'ancien président du club de rugby de Toulon, le RCT, est porteur d'un projet de reprise de l'OM. Pour vous, tout est flou, tout est fou dans cette histoire et on ne sait plus sur quel pied danser.
Oui, Mourad Boudjelal a incontestablement un don, attiré l'attention alors même qu'on ne sait rien ou presque du projet qu'il incarne. Parlons d'abord du lieu choisi vendredi pour faire son annonce. C'était dans la salle de presse du Sporting Toulon. Mourad Boudjelal venait enfin de se mettre d'accord avec le président du club varois pour en prendre la tête. C'est signé, mais avec une clause suspensive, au cas où son projet avec l'OM irait au bout. Vous imaginez être dans les locaux d'un club, expliquer en gros que vous avez dit oui au mariage, à moins qu'un club plus huppé accepte votre proposition. C'est assez lunaire quand même, il y a de quoi refroidir les supporters toulonnais. Ensuite, le temps. Mourad Boudjelal annonce à tout le monde un rachat possible de l'OM avant même qu'une offre ait été présentée. Ça devrait se produire en ce début de semaine. On ne sait pas qui sont les mystérieux investisseurs dont il parle. Et dans le même temps, Jacques-Henri Hérault, l'actuel président, assure que le club n'est pas à vendre. Sur Europe 1, samedi, Mourad Boudjelal a d'ailleurs eu cette phrase énigmatique. On pense que les propriétaires ont peut-être envie de vendre, mais peut-être qu'on se trompe. Bah alors, c'est du bluff, c'est du buzz ou c'est sérieux? L'impression que ça donne, c'est qu'il joue sur tous les tableaux.
La personnalité de Mourad Boudjelal fait forcément envie aux supporters marseillais.
Mais si tout le monde a autant envie d'y croire, c'est parce que c'est lui. Oui, c'est un professionnel du buzz. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises quand il était à la tête du rugby club toulonnais. Mais Mourad Boudjelal n'a pas fait que de la com, loin de là. Il a reconstruit un grand club, il a fait venir les meilleurs joueurs du monde. Et le RCT a quand même remporté 3 Coupes d'Europe de suite entre 2013 et 2015. Le faire savoir, oui, mais aussi le savoir-faire. Comment voulez-vous rester de marbre quand quelqu'un comme lui dit qu'il représente un projet pour refaire de l'OM un des meilleurs clubs d'Europe? En plus, il joue la carte méditerranéenne. Pas de doute, il sait s'y prendre. Il emballe la machine à fantasmes de l'Olympique de Marseille. Et on en est déjà à imaginer quelle star pourrait bien fouler la pelouse du stade Vélodrome, quel footballeur sera à l'OM ce que Johnny Wilkinson était au RCT. Assez séduisant, c'est sûr, hein, à condition qu'il y ait du concret ensuite, parce que l'emballement qui fait pchit, je pense que l'OM a assez donné.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, vous êtes d'accord ou pas tous les matins? Vous l'écoutez et vous réagissez, c'est l'édito sport d'Europe 1 tous les matins, il est 7h25.
Europe 1. Un nouveau journal dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol sur Europe 1. 7h28, Mathieu Bellière sur Europe 1.
Quels enseignements après les résultats du second tour des élections municipales hier soir? La République En Marche perdante, oui, mais surtout la vague écolo, les Verts grands gagnants. Ce matin sur Europe 1, nous décryptons ces résultats avec vous, avec les acteurs de l'actualité à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Quel poids pour l'écologie dans ce jeu politique aujourd'hui pour le parti Europe Écologie Les Verts? La Convention citoyenne pour le climat, le remaniement à venir aussi. Édouard Philippe, élu largement au Havre, est mis en tête par les Français dans ce sondage que nous révélons aujourd'hui. Europe 1, La Tribune et l'IFOP. Nous révélons que Édouard Philippe est votre favori pour réinventer la France. On reprend le mot réinventer d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe devant Nicolas Hulot et Didier Raoult. À 7h40, je reçois Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, pour décortiquer ce sondage justement. Ce sera après le journal de Jérôme Lacroix qui lui-même interviendra après Laurent Cabrol. Vous attendez la météo, mon cher Laurent.
Oui, je suis là avec cette grande tendance que j'indiquais tout à l'heure pour la semaine. Hein. C'est une tendance où nous n'aurons pas de grosse chaleur et peu de pluie. Donc en mode doucereux, cette première semaine de juillet qui sera dans l'ensemble assez agréable. Alors pour aujourd'hui, bien, nous avons effectivement des petites pluies qui se situent sur les régions de l'Est. Je dis effectivement parce qu'elles étaient annoncées. Des petites pluies sur les régions de l'Est, mais aussi sur les Pyrénées. Et tout ceci va s'échapper ou se dégonfler sur place, de sorte que vers midi, on peut parler d'un soleil omniprésent sur la France, même s'il n'est pas solitaire et même s'il n'est pas totalement rayonnant et chauffant. Mais dans l'ensemble, ce sera un temps ensoleillé. Il fera 18 degrés à Brest aujourd'hui, 20 degrés à Lille, 22 à Nevers, Épinal, Strasbourg, Bourges, Besançon entre 23 et 24, 25 à Paris et Toulouse, 29 à Grenoble, 32 à Marseille et 34 à Alès. Et ce matin, pour ceux qui ne sont pas encore sortis de la maison, sachez qu'il fait entre 14 et 22. Bon, allez, on va partir un peu léger quand même.
Merci beaucoup. Léger, pas trop chargé. On a tout noté en tout cas. Merci Laurent Cabrol, c'était la météo. 7h29, j'accueille Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1 à 7h30.
C'est la ville qui sera 100% cyclable, ça veut dire du double sens cyclable partout parce qu'on aura passé la ville en zone 30. On va s'y attaquer tout de suite.
Une destinée verte pour Lyon et son nouveau maire Grégory Doucet. Second tour du scrutin municipal, les écologistes remportent la ville et la métropole, le centre du pouvoir rhodanien. Les Verts, c'est une poussée qui remporte un nombre inédit de grandes villes un peu partout en France, dont Bordeaux à droite depuis 73 ans. Nous irons à Perpignan dans ce journal où Louis Alliot gagne cette ville de plus de 100 000 habitants sans l'étiquette du Rassemblement National. Et puis nous irons aussi à Fessenheim, c'est l'une des autres actualités du jour, la fermeture de la centrale la nuit prochaine avec l'arrêt du second réacteur.
Juste après ce journal, je vous le disais, Édouard Philippe en tête des personnalités en qui vous avez confiance pour réinventer la France. Nous révélons ce matin ce sondage Europe 1 La Tribune avec l'IFOP, Frédéric David, l'IFOP après le journal. 7h50, Périscope, le rendez-vous culture de la matinale. Jean-Philippe Ballas nous fera découvrir le nouvel album de Thomas Dutronc. Et puis enfin, retour sur le scrutin municipal et sur la vague verte dans l'opinion de Nicolas Bétou, juste avant 8h. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Qui c'est les plus forts à Lyon? Évidemment, c'est les Verts. Doublé historique pour les écologistes aux élections municipales. Ils remportent la ville de Lyon, mais aussi et surtout la métropole. 59 communes, près d'1,5 million d'habitants.
Deux nouveaux hommes forts dont vous découvrez peut-être les noms ce matin. Grégory Doucet est le nouveau maire. Bruno Bernard est le nouveau président de la métropole. Jean-Luc Boujon, on peut parler de grand chelem.
Un grand chelem réalisé par deux inconnus. Grégory Doucet, d'abord nouveau maire de Lyon. Ce père de famille de 46 ans, arrivé de Paris il y a une dizaine d'années, est un des responsables de l'association Handicap International. Et il y a 9 mois, personne ne le connaissait à Lyon. Idem pour son collègue Bruno Bernard, patron d'une entreprise de désamiantage de 25 salariés, et désormais président de la puissante métropole de Lyon, 60 communes, 3,5 milliards d'euros de budget et des compétences ultra larges. Ensemble, ils détiennent donc tous les leviers pour changer radicalement le visage de Lyon. Et c'est bien ce que compte faire Bruno Bernard.
C'est un fort investissement dans les transports en commun, 3 milliards d'investissements pour que tout le monde puisse se déplacer sans polluer. On va faire plus d'espace pour les piétons, végétaliser la ville. On va essayer de lancer en effet la plupart des choses dans les 6 mois.
Pour Grégory Doucet, il y a une priorité à initier très vite.
C'est un réseau express vélo qui traversera bien sûr la ville mais aussi toute la métropole. C'est la ville qui sera 100% cyclable, ça veut dire du double sens cyclable partout parce qu'on aura passé la ville en zone 30. On va s'y attaquer tout de suite.
Les deux hommes se savent attendus au tournant. En concentrant tous les pouvoirs à Lyon, ils sont devenus en quelques heures la vitrine de l'écologie politique en France et n'ont donc pas le droit à l'erreur. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et c'est bien une poussée verte en France et elle est inédite, un nombre jamais vu de mairies remportées, Tours, Besançon, Strasbourg, mais aussi Bordeaux.
Après 73 ans de domination de la droite, Pierre Urmic, avocat de 65 ans et le nouveau maire, il a devancé Nicolas Florian, candidat des Républicains, soutenu par La République En Marche.
À Paris, confortable victoire d'Anne Hidalgo face à Rachida Dati et Agnès Buzyn, succès avec l'appui des écologistes. Elle recueille environ 50% des suffrages.
Merci Paris, vous avez choisi l'espoir, vous avez choisi le rassemblement, vous avez choisi un Paris qui respire, un Paris plus agréable à vivre, une ville plus solidaire qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Je veux remercier David Béliard ainsi que toutes les forces qui se sont unies dès le premier tour autour de notre projet et qui ont permis de constituer cette alliance écologique, sociale, humaniste pour l'avenir de Paris. Cette victoire a du sens parce qu'elle est collective.
Anne Hidalgo, micro Europe 1 de Claudia Bertram. Rachida Dati arrive deuxième, elle obtient environ 32% des voix pour la droite.
Le scrutin parisien est marqué par le fiasco d'Agnès Buzyn. Environ 14% des voix pour l'ancienne ministre, elle ne siégera même pas au Conseil de Paris.
Fiasco à l'image des échecs du mouvement de la majorité comme à Strasbourg. Alain Fontanelle battu, unique satisfaction. Édouard Philippe au Havre, large vainqueur. Marseille va-t-elle basculer à gauche? La candidate Michèle Rubirola est en tête devant Martine Vassal, mais c'est un système par secteur dans la deuxième ville de France. La gauche devra donc sceller des alliances d'ici vendredi, élection du maire par le nouveau conseil municipal. Louis Alliot l'emporte à Perpignan, ville de plus de 100 000 habitants.
Louis Alliot qui a construit sa campagne sur sa personnalité, hein, plutôt que sur l'image du Rassemblement National. Il était d'ailleurs officiellement candidat sans étiquette, Henri de Laguérie.
C'est l'exemple qu'il n'y a plus de plafond de verre et qu'on a gagné seul contre tous.
À 51 ans, Louis Alliot décroche enfin la ville qu'il convoitait depuis 2008. La quatrième tentative fut la bonne. Au premier étage de son QG, dans un joli hôtel particulier du centre-ville, sous une chaleur étouffante, l'ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen exulte.
Je crois que c'est un beau symbole que Perpignan aujourd'hui soit, j'allais dire, la capitale de la résistance française.
Candidat sans étiquette, Alliot a mené une campagne sur son nom. Son ancienne compagne Marine Le Pen n'est pas venue le soutenir. Il s'est affiché qu'avec Robert Ménard, réélu dès le premier tour à Béziers, la ville voisine est l'exemple à suivre pour Thierry Gonzalez, électeur d'Alliot.
Il faut arrêter de diaboliser l'extrême droite. Regardez à Béziers ce qui se passe. La ville est en plein renouveau. Il y a eu vraiment un gros travail de fait de M. Ménard. C'est des gens qui s'occupent de tout le monde.
Composante locale et communauté incontournable de la ville, des gitans du quartier Saint-Jacques viennent féliciter le nouveau maire dans la soirée. À 200 mètres de là, au pied de la mairie, des militants de gauche, emmenés par la CGT, promettent qu'ils mèneront la vie dure à Louis Alliot. Perpignan, Henri de Laguérie. Europe.
Martine Aubry a eu très chaud à Lille, quatrième mandat pour la socialiste, mais ça s'est joué avec seulement 227 voix d'avance sur l'écologiste Stéphane Bally. Et puis à Toulouse, le maire sortant Jean-Luc Moudin qui a lui aussi résisté à la vague verte. Un scrutin marqué par une abstention historique estimée à environ 60%.
Et vous retrouvez, je tiens à le préciser, tous les résultats ville par ville sur Europe1.fr et sur les enceintes connectées.
Europe 1, il est 7h36.
Et peut-être dès ce matin, une première réponse d'Emmanuel Macron à cette poussée verte. Réception à l'Élysée des 150 citoyens de la Convention pour le climat. Ils ont récemment transmis 149 propositions pour répondre à la crise environnementale.
Parmi lesquelles l'abaissement à 110 km à l'heure de la vitesse maximale sur autoroute ou encore la création du crime d'écocide via un référendum.
Sylvain Burquier est l'un de ces 150 citoyens. Il se veut confiant sur la réponse du chef de l'État.
Très clairement, je pense qu'on ne va pas à 150 à l'Élysée juste pour nous dire que finalement, il ne retient rien et que c'était... ça servait à rien tout ce qu'on a fait. C'est au-delà d'un accusé réception, les premiers engagements de sa part. Avec le sujet des 110 km/h, on s'est vraiment fait critiquer. Maintenant, on va pouvoir passer à autre chose et avec un vrai fond de débat argumenté. On est persuadé que donc vont ressortir des grandes lignes. Le référendum va être, selon moi, une grosse pierre angulaire qui va être portée un peu plus loin. On n'a pas les prétentions d'être là pour refonder le pays, mais on est arrivé dans un temps où finalement on est dans le cadre d'une crise et on a fait des propositions de sortie de crise. Le président de la République a fait des déclarations qui allaient dans le sens de, même lui, de se remettre en question, de repasser dans un temps long, dans une économie décarbonée, ce genre de sujet. Donc on cadre parfaitement avec la tendance de ce qu'il souhaite porter.
Dans l'actualité également, la fin de l'activité à la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, la plus ancienne centrale nucléaire de France en service depuis 43 ans.
La nuit prochaine, extinction du second réacteur. C'est donc le dernier jour. Jean-Jacques Herry, vous êtes sur place pour Europe 1 au pied de la centrale. Dans quelques heures, donc le baisser de rideau, racontez-nous cette ambiance bien particulière. Les salariés arrivent depuis environ une heure.
Oui, ils se garent sur le parking avant de rentrer dans le grand bâtiment blanc qui borde le Rhin pour cette journée très spéciale. Tous les gestes pour arrêter un réacteur, ils les connaissent. Ils les ont accomplis pendant 40 ans lorsqu'il fallait recharger en combustible. Mais cette fois-ci, ça sera différent, lâche Alain Besserer, délégué syndical FO.
Ça va être une journée vraiment paradoxale. Chacun va remplir sa mission d'une manière normale. On va commencer à faire baisser la charge, on va découpler l'alternateur du réseau. Puis après, on va laisser descendre en température, en pression. On va ouvrir la cuve et puis sortir tout le combustible et puis on le remettra plus jamais.
Lassés, les salariés ne veulent plus parler ce matin et pour discuter, il faut aller dans le village de Fessenheim pour s'apercevoir à quel point le départ des familles EDF aura un impact sur la vie sociale. Laurent Schwein est le président du club de football, le FC Fessenheim.
On a une douzaine de gamins qui vont partir parce que les parents sont mutés. On a aussi des gens de EDF qui nous donnaient un petit coup de main à l'entraînement. Alors il manque toujours des dirigeants, des entraîneurs. Et là, on est en train de chercher un petit peu, puisqu'on est obligé d'aller de l'avant.
Ce soir, il n'y aura donc plus de centrales en activité. Ici, reste beaucoup de questions pour les habitants. Le démantèlement amènera-t-il de nouveaux employés? S'installeront-ils ici et feront-ils vivre les commerces?
Jean-Jacques Herry, envoyé spécial d'Europe 1 à Fessenheim. La centrale sera démantelée plus tard. Le site EPR de Flamanville, dans la Manche, est censé prendre le relais de la production d'électricité. Mais sa mise en service est sans cesse repoussée. Ce sera au mieux en 2023.
Jugement ou rebondissement. Le tribunal correctionnel de Paris est censé rendre cet après-midi sa décision sur les soupçons d'emploi fictif sur Pénélope Fillon. 5 ans de prison dont 2 fermes requis contre François Fillon pour notamment détournement de fonds publics.
Mais la défense demande la réouverture des débats après les révélations de l'ex-patronne du parquet national financier. Elle aurait subi des pressions de sa hiérarchie pour des avancées plus rapides de la procédure. Alors Salomé Legrand, c'est prévu à 13h30. Que peut-il se passer tout à l'heure?
Eh bien, tout est possible. Le tribunal peut rendre sa décision comme si de rien n'était. L'ancienne procureure nationale financière a parlé de pression procédurale, rien sur le fond. L'ouverture d'une information judiciaire était même saluée à l'époque par les avocats des Fillon, qui de toute façon pourront toujours faire appel de la décision et ajouter alors des pièces au débat. L'autre option est d'accéder à la demande de la défense et donc de rouvrir ces débats. Si tel était le cas, l'audience pourrait être renvoyée afin que chaque partie puisse réunir les pièces nécessaires, demander à ce que tel ou tel document soit produit, par exemple le télégramme du parquet général mentionné par l'ancienne patronne du PNF devant les députés. D'après nos informations, le sujet a fait l'objet d'intenses discussions au palais de justice ces derniers jours. Tous les scénarios ont été envisagés.
Les explications de Salomé Legrand.
Merci beaucoup, Jérôme Lacroix. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Il est 7h40, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Les enseignements des municipales ce matin sur Europe 1, les Verts, grands gagnants. Quels enseignements tirer de cette vague? L'opinion de Nicolas Bétou à 7h50. À 8h15, vous l'avez noté au micro de Sonia Mabrouk, le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Yannick Jadot qui restera ensuite pour échanger avec vous, répondre à vos questions jusqu'à 8h45. Vous posez des questions, j'en vois déjà beaucoup. N'hésitez pas, écrivez-nous sur le hashtag Europe 1. Mais tout de suite, les acteurs de l'actualité. Nous sommes avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Et merci de nous rejoindre ce matin sur Europe 1. On est dans une autre séquence de la semaine politique. On a clos les municipales hier et nous nous projetons cette semaine qui démarre. Le scrutin, ok. La Convention citoyenne pour le climat qui rencontre Emmanuel Macron aujourd'hui, ok. Édouard Philippe, là dans quelques heures, il y a ce face-à-face entre le Premier ministre et le Président de la République dans un climat de remaniement. Et vous apportez ce matin sur Europe 1 un nouveau casse-tête, si j'ose dire, dans l'équation insoluble pour Emmanuel Macron. Ce sondage qui nous apprend ce matin que quand on pose la question très clairement aux Français, je vais la citer d'ailleurs, en qui avez-vous le plus confiance? À quelle personnalité faites-vous le plus confiance pour réinventer la France? Et le mot est important, oui. C'est celui d'Emmanuel Macron.
Exactement.
Pour réinventer la France, numéro 1, Édouard Philippe, 45% des voix.
Tout à fait. Vous avez raison d'insister sur réinventer la France. C'était la phrase majeure du président lors de ses deux dernières interventions. Il a même dit « me réinventer moi-même ». On disait qu'Édouard Philippe n'était pas dans le casting, si je puis dire, pour réinventer la France et pour, la dernière ligne droite du quinquennat. Et absolument pas. C'est celui, auprès des Français, c'est une enquête IFOP, la tribune qu'Europe 1 diffuse en exclusivité, c'est celui en qui les Français ont le plus confiance pour inventer la France. Il est en tête dans très nombreuses catégories. Une fois de plus, il est très fort dans les catégories de droite. On avait dit ici sur cette antenne la semaine dernière que Édouard Philippe tenait l'édifice macronien. Emmanuel Macron a eu un socle électoral qui est passé du centre-gauche au centre-droit, voire à droite. C'est Édouard Philippe qui obtient les meilleurs scores dans les segments traditionnels du peuple de droite. Il faut avoir ça en tête dans une logique de remaniement. Et si, entre guillemets, on veut s'en débarrasser.
Mais on va parler justement de ces rapports de force droite-gauche, centre, ni de droite ni de gauche. On essaye d'y voir un petit peu clair. On est à 2 ans des présidentielles désormais. Mais quand on regarde votre classement, et on va le détailler parce que le podium est passionnant. Mais Emmanuel Macron, lui, n'arrive que 9e aujourd'hui, je le disais. Et ils l'apprennent sur Europe 1 ce matin, le Premier ministre et le Président de la République. Ils vont se retrouver face à face. Il est là le rapport de force aussi.
Exactement. Alors on a une légitimité sondagière pour Édouard Philippe. Il a aussi une légitimité électorale. Il a été, si je puis dire, sanctifié, relégitimé par le suffrage universel hier. Emmanuel Macron est très en retrait par rapport à Édouard Philippe. Ça c'est en lien avec toute une série d'enquêtes IFOP, notamment pour le JDD, où on voit que sa parole est relativement démonétisée. Il y a un souci de sincérité quand Emmanuel Macron s'exprime, alors que Édouard Philippe, il est crédité d'une sorte de parler vrai rocardien, lorsque pendant ses différentes interventions, lors de la crise du Covid, il apparaît sincère, pédagogue, il disait parfois « je ne sais pas », il apparaissait en équipe. Il a maintenant une popularité qui s'inscrit en décalque avec celle d'Emmanuel Macron, surtout sur l'idée de réinventer la France, de se projeter vers l'avenir. Les Français ont toujours du mal, hein. Les Français souffrent d'un pessimisme de projection pour eux, pour leurs enfants. Il arrive nettement en tête, il devance Nicolas Hulot, alors qui est certes, qui n'est plus dans le jeu politique après sa fracassante démission d'il y a presque 2 ans, c'était en septembre 2018.
Mais qui incarne quelque chose.
Il incarne quelque chose, les valeurs environnementales, qui auraient pu reculer dans un contexte de crise économique. On se souvient de la phrase de Nicolas Sarkozy, l'environnement ça commence à bien faire, qu'il avait cité en 2011 quand le chômage remontait. Là on voit que les Français de plus en plus n'opposent plus les questions environnementales, la fin du monde par rapport aux questions sociales, la fin du mois.
Ne donnez pas le troisième du podium, je ne voudrais pas que, parce que c'est surprenant. C'est surprenant, mais je ne voudrais pas qu'il pollue l'échange. On va en parler à la fin de l'interview. J'insiste sur la jambe droite dont vous parliez, la jambe droite d'Emmanuel Macron. Parce que il y a plusieurs enseignements. Soit on prend le scrutin municipal, par exemple. Là, on sort de votre sondage. Édouard Philippe, réélu largement au Havre. On peut se rappeler de Gérald Darmanin, également au premier tour. François Bayrou à Pau, si on le met sur la jambe droite. À côté de ça, La République en
François
Marche.
François Baron également.
Pas une grande ville pour La République en Marche. Mais ni c'est... Strasbourg, où il y avait de l'espoir. Paris, on n'en parle même plus.
Oui, ça a été un scrutin catastrophe pour La République en Marche. Vous avez raison d'insister sur Paris, sur Lyon, sur Marseille. Strasbourg, qui était la seule ville qui aurait pu être gagnée. En fait, le vote aux élections municipales repose sur un triptyque projet, bilan, incarnation, c'est-à-dire les personnalités. Et En Marche, s'en sortant, était complètement dépourvu. Puis il y a eu des véritables catastrophes industrielles. Paris, où nos premiers sondages IFOP fiduciaires pour le JDD donnaient Benjamin Griveaux en tête, c'était il y a 2 ans. Et puis au fur et à mesure, les campagnes ont été catastrophiques.
Mais pour réinventer la France, c'est là que je rapproche le scrutin d'hier avec ce sondage que vous révélez sur Europe 1 ce matin et dans la tribune, dans les personnalités bien classées, on retrouve Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy. Est-ce que le futur clivage politique, si j'ose dire, ça dessine ainsi une forme de droite modérée et une gauche écologiste ?
On peut dire ça. C'est vrai que je suis frappé, comme vous, dans ce classement, par les personnalités de droite, notamment Xavier Bertrand, qui est un possible présidentiel.
Pour réinventer la France, c'est ça, réinventer la question.
Pour réinventer la France, qui se retrouve à un niveau élevé. Lui, on peut dire qu'il réinvente les Hauts-de-France, hein, avec son bilan particulièrement excellent dans sa région. François Baroin également. Il y a un déficit sur les personnalités de gauche, voire les personnalités écologistes. Yannick Jadot, que vous recevez tout à l'heure, arrive relativement loin. C'est ça le paradoxe de ce champ politique. D'un côté, la droite a peu d'espace parce que Édouard Philippe et Emmanuel Macron prennent l'espace de droite, mais a des fortes incarnations, des personnalités qui pourraient, dans une campagne, réinventer la France. La gauche a un espace très fort, puisqu'Emmanuel Macron a un peu déserté son hémisphère gauche, mais manque de personnalité en cas d'incarnation.
On est dur avec les politiques parfois, j'essaie de me mettre à leur place, parce qu'à la lecture de votre sondage, quand même, hein, pour les mois qui viennent, je prends un autre élément du sondage. Pour chacun des thèmes suivants, diriez-vous que le gouvernement doit le traiter de façon tout à fait prioritaire, plutôt prioritaire ou secondaire? Bref, les priorités des Français, la relance économique en 1, le financement du modèle social et de l'hôpital en particulier en 2, la protection de l'emploi, la relocalisation des activités stratégiques, la revalorisation des bas salaires. Je ne vois pas l'écologie là-dedans par rapport au scrutin d'hier.
Elle arrive quand même un peu plus bas. C'est vrai que dans un contexte de crise économique, les Français, hein, tous nos indicateurs montrent une inquiétude très forte. On n'est pas dans le contexte de 2008, de la crise où la montée du chômage qui était survenue avait stupéfié, avait surpris les Français. Là, ils s'attendent à un choc et le choc, il est déjà là avec toutes les annonces de plans sociaux. Mais c'est vrai que les questions économiques sont centrales. Et puis, leçon de la crise du Covid, leçon du confinement, c'est la relocalisation. La question de la souveraineté économique, c'est peut-être un des axes majeurs pour réinventer la France. Et c'est vrai qu'il y a des personnalités politiques qui sont bien placées. Je parlais de Xavier Bertrand, je parlais de Nicolas Sarkozy qui en avait parlé par le passé, Arnaud Montebourg qui est un des premiers à parler du Made in France.
Et pour terminer, les personnalités de l'extrême, on va dire. Marine Le Pen n'arrive que 15e, Jean-Luc Mélenchon 29e. Pourquoi ? Parce que l'antisystème est incarné sur le podium. J'avais retenu la 3e position du podium. Surprenant.
Tout à fait. L'antisystème est incarné par Didier Raoult. Alors, ce n'est pas une personnalité politique, bien sûr, mais on est frappé de le voir arriver en 3e position pour réincarner la France. Vous avez raison. C'est une personnalité anti-système. Il obtient ses meilleurs scores dans la catégorie populaire. Chez les sympathisants du Rassemblement national, il est même devant Jean-Luc Mélenchon chez une partie des sympathisants de la France insoumise. Il a crevé l'écran pendant la période du Covid. Il a incarné un certain discours de vérité par rapport aux élites médicales, aux élites, aux élites politiques.
En tout cas sur le ton. Hein. C'est, sur le ton, on ne va pas le trancher non, ce matin entre vous et moi.
Je refuse de le faire, bien sûr, comme vous. Et c'est vrai que c'est celui qui est extrêmement clivant, très controversé, mais qui a incarné quelque chose pour réinventer la France.
C'est passionnant. Frédéric Dabi, merci beaucoup. Directeur général adjoint de l'IFOP, c'est passionnant et c'est à retrouver sur europe1.fr. Qui pour réinventer la France? Je redonne le podium. Édouard Philippe en numéro 1, c'est intéressant, alors qu'il rencontrait Emmanuel Macron ce matin. En numéro 2, Nicolas Hulot. En numéro 3, Didier Raoult. Merci beaucoup Frédéric Dabi.
Merci, à bientôt.
Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Et tiens, Yannick Jadot, on va lui parler de Nicolas Hulot. Il sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 tout à l'heure.
Europe 1. Son nouveau disque s'appelle Frenchy, Thomas Dutronc avec Jean-Philippe Ballas dans Périscope, dans une minute sur Europe 1. Europe 1, il est 7h50, c'est la matinale, Mathieu Béliard.
Et nous sommes avec Jean-Philippe Ballas à 7h50. Comme tous les matins, c'est votre rendez-vous culture sur Europe 1. C'est Périscope, la culture à 360 degrés. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin, les histoires et les guitares de Thomas Dutronc.
Oui, il vous attend dans son appartement qui déborde de guitares, littéralement, vous allez voir. Thomas Dutronc avec un nouvel album classe, délicat, Frenchy, c'est le titre. De belles reprises, d'excellents musiciens, des invités prestigieux, Iggy Pop, Diana Krall, entre autres. Bref, un peu de douceur pour un lundi matin. Vous êtes avec Thomas Dutronc.
Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is la vie en rose.
Bonjour Thomas Dutronc.
Bonjour.
Déjà, il y a plein de très beaux invités sur cet album. Comment vous faites, par exemple, pour avoir Iggy Pop et Diana Krall?
Déjà pour arriver jusqu'à Miami, donc c'est génial parce que Diana Krall est venue sur le projet grâce à Iggy Pop qui lui a dit tiens, tu voulais faire un truc avec moi, il y a ce projet de ces petits Frenchies sympas là, ça vaut le coup.
Say c'est bon, lovers say that in France.
J'ai dit bon, alors il faut que j'appelle Diana Krall. Donc j'ai fermé la porte, je me suis mis dans un endroit où ça captait bien. Deux, trois reprises, j'ai dû lui dire pardon, can you repeat please? Parce que j'ai, des fois au téléphone, l'anglais, je me débrouille mais... Donc déjà, j'étais très impressionné. Elle a été vraiment adorable en me disant qu'elle adorait le solo de guitare, elle adorait le tempo, le piano, le groove, tout. Elle trouvait ça parfait.
Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear.
Et puis voilà, on est arrivé au studio, un peu fébrile, mais... Iggy Pop est tellement cool, c'était, je sais pas, peut-être je planais un peu, c'était un super moment pour moi.
C'est une chanson qui nous ressemble, toi tu m'aimais et je t'aimais.
Et puis à votre voix, Thomas Dutronc, quasi crooner, en tout cas tout près du micro.
Oui, voilà, j'essaye d'être moi-même. Alors c'est vrai que par moments je suis un peu tenté de m'inspirer un petit peu de la voix de mon père, mais parce que...
Il y a des intonations parfois.
Ouais, mais ça, j'ai le droit à la limite. Mais comme ça, je reprends l'affaire familiale. Non, mais je pense que j'ai des choses aussi de ma mère, puis surtout de moi, j'espère, dans une espèce de sincérité. Je recherche l'émotion, quoi. Je ne recherche pas en faire des caisses. Pour ces thèmes, je voulais quelque chose d'un petit peu fragile et de sur un fil. Je ne veux pas faire un album pour initier. Je ne veux pas faire un album compliqué, quoi. C'est-à-dire que c'est populaire, quoi. Ça vibre comme du vieux blues, quoi. La guitare, elle parle.
Là, Thomas Dutronc, on est chez vous, il y a plein de guitares. On peut aller voir un peu?
Ouais, bien sûr.
Ah oui, il y en a là aussi.
Là, il y a un autre petit tas. C'est les guitares dont je me sers vraiment. Et là, il y a un petit... Ouais, on peut appeler ça un dressing à, un dressing à guitare. Quoi.
C'est très impressionnant.
Un espèce de placard à guitare où il y en a combien? Là, 10, quoi. C'est des belles pièces. Bah, quand j'ai gagné des sous avec mon premier disque, je me suis fait plaisir, j'ai acheté plein de guitares.
Ah, dans les tiroirs aussi?
Dans les tiroirs, il y en a aussi. Je vais peut-être aménager un autre espace parce que là, je commence à déborder. Il y a des guitares qui valent pas grand-chose et puis il y a des guitares qui valent un certain prix. Il y a de tout. C'est peut-être celle-ci qui est la première celle-mère que j'ai... Donc, c'est les guitares sur lesquelles jouait Django Reinhardt. Là, j'ai refait le vernis parce qu'il y avait beaucoup de rayures.
On sent qu'elle a vécu.
Elle a un peu vécu. Voilà, on arrête.
Merci Thomas Dutronc.
Merci à vous.
Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser.
Frenchy, on dit Frenchy ou Frenchy? Du coup, j'ai hésité.
As you want.
J'ai trébuché. Frenchy ou Frenchy? Le nouvel album de Thomas Dutronc, c'était Périscope. La collection de guitare, elle fait un peu envie. Hein. J'aurais bien voulu faire cette visite guidée, j'en ai pas. Merci beaucoup, 7h54.
L'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La France a donc connu hier au second tour des élections municipales une énorme vague verte.
Oui, une poussée vraiment impressionnante, très au-delà même des pronostics. Il suffisait d'ailleurs de voir l'air estomaqué des différents dirigeants écolos hier soir sur les plateaux de télévision pour comprendre que les Verts eux-mêmes n'avaient pas placé leurs espoirs si haut. Et le plus frappant, je crois, c'est le cas de Bordeaux qui bascule à gauche pour la première fois depuis 73 ans, emporté par un candidat totalement inconnu, sans expérience, mais avec une étiquette bien dans l'air du temps.
À Lyon aussi, pour la ville comme pour la métropole, oui. Les Verts provoquent un séisme.
Oui, avec même chose, un candidat nouveau venu et qui vient enrichir l'escarcelle des villes écologistes avec Strasbourg, Poitiers, Annecy ou Besançon. Or, ce qui est frappant dans ces résultats, c'est l'inversion du rapport de force au sein de la gauche. Les Verts, dans de nombreux endroits, sont devenus les patrons de la gauche au détriment des socialistes. Alors bien sûr, dans les villes où le maire sortant était socialiste, les Verts sont venus renforcer sa majorité et assurer la victoire. L'exemple le plus frappant, c'est Paris, bien sûr. Mais là où la gauche était en conquête, ce sont les Verts qui ont donné le tempo. Olivier Faure, le patron du PS, avait beau dire hier soir que ce scrutin marquait la naissance d'une nouvelle force politique sociale-écologique. Eh ben non, c'est l'inverse qui est vrai. Il faut aujourd'hui parler d'une nouvelle force écolo-social.
Qui peut préfigurer ce qui se passera en 2022 pour l'élection présidentielle ?
Alors, pour vous répondre, Mathieu, il faut se reporter 3 ans en arrière. Nous étions au lendemain de législatives triomphales pour La République En Marche, le tout jeune parti du nouveau président élu, Emmanuel Macron. Et à l'époque, on n'arrivait plus à compter, tellement ils étaient nombreux, les maires de droite et de gauche qui envoyaient des signaux appuyés à Emmanuel Macron. Eh bien, en 3 ans, tout a changé. Et les alliances, par exemple, entre la droite et En Marche n'ont que rarement fonctionné. Le maire de Toulouse, certes, a sauvé de justesse son siège, mais dans la plupart des cas, à Bordeaux, à Tours, à Nancy aussi, ces alliances ont même été contre-productives. En tout cas, ce qui est vrai au niveau municipal ne le sera pas forcément au niveau national. Et la très lourde défaite du parti d'Emmanuel Macron ne peut certainement pas être extrapolée à l'échelle de la France entière.
La République En Marche ne conquiert aucune ville.
Non, elle en garde une poignée, mais aucune conquête, que des échecs. Au fond, son plus brillant succès est aussi son plus gros problème. Je veux parler du Havre, bien sûr, et de la nette victoire d'Édouard Philippe. Un succès pour le Premier ministre qui devrait, en théorie, rejaillir sur le chef de l'État puisqu'il mène sa politique. Sauf qu'Édouard Philippe n'est pas adhérent de La République En Marche et qu'Emmanuel Macron avait parmi ses projets de remaniement l'option « je remplace Édouard Philippe à Matignon ». Un scénario devenu hier soir plus difficile parce que virer un vainqueur, c'est encore plus compliqué que virer quelqu'un qui est plus populaire que vous.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Édouard Philippe, vraiment au centre des débats ce début de semaine, vous l'aurez compris. Votre édito Nicolas, tous les matins dans la matinale d'Europe 1, juste avant 8h.
Europe 1. À 8h, le journal de François Geffrier. À suivre, la météo avec Laurent Cabrol sur Europe 1.